8h. Les infos ici à Marseille, en Provence, Camille Payan.
Et sur la route, Philippe, plusieurs accidents signalés ce matin.
On vous rappelle celui sur la 57 avant la sortie, le Canet des Morts en direction de Nice. Plusieurs accidents, mais pas de gros bouchons. Bouchons en revanche sur la 55, 4 km, puisqu'il y a eu un accident à Gignac-Lanert en direction de Marseille. Et puis sur la 51 en direction d'Aix-en-Provence au niveau de la sortie Luynes, la voie de gauche et la voie de droite impactée par un accident. Merci Christine d'avoir partagé l'info.
Le mercredi, c'est le retour des éclaircies.
Pour cet après-midi, elles seront généreuses. Un peu de patience, c'est vrai que c'est encore un peu humide au lever du jour, mais les éclaircies reviennent vite. Les températures au lever du jour ce matin, Marseille et Toulon, 10 degrés. Aix-en-Provence, 7 degrés. Gap, 5 degrés. Digne, 6 degrés. Et un 14-15 degrés pour cet après-midi. Marseille, vous aurez 15 degrés. Les infos donc ici à Marseille en Provence, Camille, à la une ce matin. Est-ce que les menaces d'attentat ou d'alerte à la bombe vous font peur?
Une vague de fausses alertes à la bombe et de menaces d'attentat dans les lycées des Bouches-du-Rhône et du Var ces dernières heures. À chaque fois, les doutes ont été levés, mais dans ce contexte d'alerte maximale en France, on peut s'interroger lorsque l'on voit les forces de l'ordre patrouiller et entrer en action, notamment Gare Saint-Charles à Marseille. Comment est-ce que l'on vit ces menaces, Fred Chapuis?
Eh bien, ni panique, ni anxiété en gare Saint-Charles, malgré le retour des soldats et une présence visible de la sûreté ferroviaire. Patricia arrive de Toulon.
Je n'ai pas ressenti cette atmosphère anxiogène. C'est au moins efficace pour arriver à calmer un peu cette angoisse, qui probablement doit être tétanisante pour certains.
Elle n'est pas tétanisée par la menace terroriste, mais Romane Lissène à Saint-Charles est rassurée par les mesures prises.
Forcément, ça fait un petit peu peur, mais après, là, il y a des lycées qui ont été fermés, donc il y a des mesures qui ont été prises. Donc, s'il y a des mesures qui sont prises, ça devrait aller, mais forcément, si ça arrive pendant qu'on est en cours, on ne peut pas y faire grand-chose.
Sans doute parce que la ville n'a pas été épargnée par le passé, les Marseillais semblent habitués à vivre avec ce risque attentat.
Personnellement, je n'ai pas vu plus de militaires, je n'ai pas vu plus de policiers. Donc en même temps, on a l'impression que c'est déconnecté.
Ça fait des années qu'on nous martèle les vigilances, les plans vigipirates, les plans spéciaux. Il y a une banalisation en fait de ça aussi.
Enfin, je croise Élodie et Michel en séjour à Marseille, débarqués en avion comme si de rien n'était.
Je n'ai pas vu de différence à l'aéroport. Évidemment, on y pense parce que bon, je me suis dit, bon, est-ce que ça va être en retard, ça va être le bazar, mais finalement, c'était normal.
On va même à pied au Vieux-Port avec la valise, en espérant qu'on survive.
Voilà, des touristes et des Marseillais au micro de Fred Chapuis pour France Bleu Provence. Et vous, est-ce que ces menaces, ces fausses alertes, est-ce que ces forces de l'ordre qui patrouillent, est-ce que cela vous fait peur? Est-ce que ça vous effraie?
Comment vivez-vous au quotidien cette menace? Est-ce que vous vous sentez en sécurité dans les lieux publics? Venez nous le dire ce matin. On prend le temps d'en parler juste après ce journal avec vous. 04 42 38 08 08.
À la une aussi ce matin sur France Bleu Provence, ce combat d'un couple de Marseillais pour un logement décent. Et le mot n'est pas faible, on connaît les problèmes de mal-logement à Marseille. En voici donc une nouvelle illustration. Depuis plus de 20 ans, deux Marseillais vivent rue Forcia, à deux pas du cours d'Estienne-d'Orve, dans le premier arrondissement. Mais depuis plusieurs mois, ils composent avec des fissures au sol, une peinture qui tombe, l'humidité qui envahit le logement. Le bailleur a été contacté en vain, personne ne les aide pour avoir un autre logement, Laurent Grollet.
Dans le hall de l'immeuble, des morceaux de peinture au sol, c'est en descendant ces marches que Mohamed est tombé il y a 5 mois.
Les pieds, il est parti sur les cailloux, je descendais sur le dos, j'arrivais pas à bouger.
Vous avez eu très peur?
Exactement.
Dans la cage d'escalier, un tuyau a été colmaté, mais l'humidité est partout. Alors aujourd'hui, l'état de l'immeuble inquiète ce couple.
Parce que ça, c'est ancien, les maisons. Si tu vois ici, il y a le vide, il est mal fait. Nous, on est peur. S'il arrive à quelque chose, après, derrière, il y a des mousses sur les murs.
Moisissures.
Exact. Tout ça, mais on a parlé 50 fois, mais à personne ne écoute.
Handicapé et logé au deuxième étage, Mohamed veut tout simplement quitter ce logement.
Moi, j'ai l'hernie discale, je suis handicap. L'escalier, si je monte et je descends, ça fait très mal.
Deux étages pentus.
Voilà. Et si j'ai acheté un peu de marchandises avec ma femme, j'arrivais pas à monter. Moi, je demande de rez-de-chaussée parce que j'arrivais pas à monter. Il y en a.
La première demande déposée auprès du bailleur date de plus de 10 ans.
Un reportage Laurent Grollet pour France Bleu Provence. Le bailleur, c'est Marseille Habitat Provence. 24 heures avant la mise en situation prévue au Auvernais dans les Alpes de Haute-Provence, le hameau est bouclé à partir de maintenant. Grosse opération prévue dans le cadre de l'enquête sur la disparition du petit Émile le 8 juillet dernier. La mise en situation, une sorte de reconstitution, confrontation avec les habitants et les membres de la famille présents le jour de la disparition du petit garçon, doit débuter demain. Dans dans le Bas-Rhin. 6 mois après la disparition de la jeune Lina, 15 ans, les 3 gardes à vue ont été levés cette nuit. Un couple et un homme de la région alsacienne ont été entendus. Il n'y a pas d'éléments incriminants d'après les enquêteurs.
Il a préféré garder le silence, mais son visage serré en disait long.
Hubert Falco, l'ancien maire de Toulon, sonné par les réquisitions de l'avocate générale lors du procès en appel de l'affaire dite du frigo. La même peine prononcée qu'en première instance, 3 ans de prison avec sursis, 5 ans d'inéligibilité pour avoir notamment déjeuné au sein du conseil départemental du Var plusieurs fois par semaine pendant près de 3 ans, alors qu'il n'y siégeait plus. La décision a été mise en délibéré au 14 mai prochain, mais l'ancien maire semble marqué par ce combat judiciaire. Christelle Marquès.
Je sollicite une peine qui corresponde à la faute que j'ai commise. Les propos de Hubert Falco sont prononcés d'une voix basse, presque hésitante. L'homme souffre, son avocat l'a souligné. Lorsque l'audience est enfin levée, l'ancien maire de Toulon étreint son avocat et un autre proche, puis suivi de Maître Fradet, il rejoint son épouse dans le couloir, longeant une nuée de journalistes. Il ne fera pas de commentaires particuliers.
Tout a été dit. On attend le 14 mai à partir de maintenant.
Est-ce que vous avez demandé à la cour ?
D'assurer une proportion dans la peine prononcée, entre la peine prononcée et les faits. Et la personnalité d'Hubert Falco.
Une personnalité longuement abordée par Maître Fradet dans sa plaidoirie, car juger c'est comprendre, insiste le conseil. Je ne cherche pas à édulcorer les faits, poursuit-il. Mais Hubert Falco a ce défaut de voir la politique partout. Il a perdu son sang-froid dans cette histoire, car lui, le chantre de l'exemplarité, était pris justement pour ça. Il est venu chercher condamnation, mais il vous appartient de ramener cette affaire aux proportions qu'elle mérite, conclut-il.
Christelle Marquès pour France Bleu Provence. Rendez-vous donc le 14 mai prochain. Gabriel Attal réunit son gouvernement pour un séminaire consacré au travail. Objectif, combler le déficit public. Il manque plus de 20 milliards d'euros dans les caisses, 5,5% du PIB. Pas question d'augmenter les impôts, précise Bruno Le Maire. Mais le Premier ministre veut pourtant bien poursuivre, dit-il, la rigueur. Il s'expliquera ce soir aux 20h de TF1. Vous connaissez l'adage, bien sûr, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Dans le Var, à Ollioules, un couple a tenté et a gagné. On vous fait rêver ce matin, plus de 73 millions d'euros à l'euro-million. Ticket validé au 428, le bureau tabac d'Ollioules, où les tractations vont bon train, Sophie Glotin.
Oui, et de cette somme qui donne le tournis, 73 448 160 euros, même la patronne Laurence Quintarelli a du mal à réaliser que le plus gros gain du Var a été remporté chez elle.
Mais tant mieux pour eux, hein. La vie est belle.
Et tant mieux aussi pour votre établissement.
Ah oui, ça nous fait de la pub, les curieux viennent.
Hein. Avec toujours la même question, qui a pu remporter ce jackpot?
C'est pas moi. Demandez-le, pas moi.
On saura pas c'est qui. Ah, ils ne diront pas.
Madame, est-ce vous qui avez gagné les 73 millions d'euros?
Tout, non. Ah, j'aurais aimé, moi. Mais non, heureusement.
Ah, peut-être une piste ici?
Oui, c'est moi.
C'est une fausse piste. Les 73 millions d'euros ne sont qu'un rêve pour Jérémy qui joue toutes les semaines à l'euro-million.
Avec Étoile Plus?
Ouais, ça fait rêver de gagner un peu d'argent quand même.
Là, c'est beaucoup d'argent, 73 millions.
Bah oui, c'est énorme. Ça pourrait faire de quoi faire plaisir à beaucoup de monde.
Alain, c'est lui aussi ce qu'il ferait avec un tel pactole.
Des voyages, je pense, comme tout le monde. Maison, faire plaisir à la famille.
Voilà. Et aux journalistes de France Bleu, non?
Peut-être, pourquoi pas.
Il paraît que les gagnants préfèrent rester discrets. Évidemment, je crois que tout le monde ira frapper à leur porte dans ces cas-là. 73 millions d'euros, je vous ai entendu, Philippe. Il paraît que c'est le salaire d'un an de Kylian Mbappé.
Oui, paraît-il, ouais.
Le joueur du PSG sifflé comme s'il s'y attendait au Vélodrome hier soir, malgré la victoire des Bleus 3-2 face au Chili. Victoire sans briller, mais surtout avec des dégâts, gros dégâts pour l'OM. Jonathan Clauss est blessé, le défenseur touché à l'ischio-jambier. Forfait donc pour le Classico dimanche. Ça fait un blessé de plus pour l'OM et ça tombe mal, évidemment.
Et le match sera à vivre en direct sur France Bleu Provence. Bien sûr, allez l'OM, 100% OM, c'est ce soir, après les infos de 18h.